Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Renaud Putain d'Expo, c'est le titre de la première rétrospective consacrée au chanteur de Mistral gagnant. Elle s'ouvre vendredi prochain au Musée de la Musique à Paris. Visite en avant-première dans quelques instants avec Monique Younes. Parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, le tailleur de Relisane d'Olivia Elkaïm, l'un des coups de cœur de Bernard Lehu. Didier Decoin, lui, signe son premier album jeunesse. Le romancier et président de l'Académie Goncourt s'est confié à Laurent Marsic, sans oublier les programmes télévisés de ce mardi avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin de la Putain d'Expo, c'est son nom, celle qui est consacrée à Renaud et que l'on pourra visiter au Musée de la Musique à Paris dès ce vendredi 16 octobre.
Oui, et c'est le frère jumeau de Renaud, David Séchant, qui a eu l'idée de cette exposition. Il en avait assez, David, de voir Renaud déserter les pages culture des journaux pour alimenter les pages people. Il voulait rappeler à ceux qui l'ont peut-être oublié l'apport immense de Renaud à la scène musicale française, mais rappeler aussi ses engagements sociétaux, humanitaires et politiques. David a parlé de son projet à son frère Renaud, qui lui a répondu...
Mais je suis pas mort.
Toujours vivant, Renaud. Il a fallu l'intervention de Gérard Le Monaco, le scénographe de Renaud, pour le convaincre de l'utilité de cette exposition, qui nous fait découvrir le destin de cet enfant dont la famille était convaincue dès son plus jeune âge qu'il sera artiste. Il suffit de lire dans l'exposition les lettres pleines d'humour que Renaud adressait à ses frères, de découvrir son roman écrit à 8 ans, Arsène Lampion et Commissaire Maigrelet, de voir ses dessins, notamment sa bande dessinée, remake de Lucky Luke. Renaud ne sera pas écrivain comme son père, mais son goût pour les mots fera de lui un chanteur énervant.
Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
Hexagone, un des premiers coups de griffe de Renaud, c'était en 1975. Monique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement dans cette exposition ?
Mais il y a tout d'abord ce film en noir et blanc où l'on surprend Renaud à 2 ans fouillant dans les poches de la veste de son père pour dénicher le paquet de cigarettes et en mettre une à sa bouche. On comprend que son goût pour la cigarette remonte à très loin. Oui. Et dans les premières vitrines, ne loupez pas la lettre que lui a écrit son père, Olivier Séchant, le 30 janvier 1986, 10 jours après la sortie de ceci.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes. Avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnant.
La chanson est tout de suite un tube. Son père lui écrit une lettre dans laquelle il le sermonne de trop fumer. Il lui reproche de se laisser un peu trop récupérer politiquement, notamment par Jack Lang et François Mitterrand. Il le blâme de participer à des émissions ridicules comme les Victoires de la musique et de faire des chansons sur Margaret Thatcher, alors que les sujets ne manquent pas en France. Une lettre franche mais affectueuse, estime David Séchant.
Mon père suivait de très près son parcours professionnel, mais il était assez critique. Donc il s'en est ouvert dans cette fameuse lettre qui ne lui a jamais envoyé. C'est resté dans les archives que j'ai retrouvées par la suite, après le décès de mon père. Ils avaient un rapport assez particulier quand même, puisque mon père ne comprenait pas comment, en écrivant une chanson sur un coin de table ou sur un coin de flipper, en 10 minutes, on puisse devenir une vedette absolue, gagner énormément d'argent et être adulé ainsi par son public, alors que lui cherchait le succès littéraire, qu'il a vraiment frôlé avec quelques prix littéraires, mais qu'il n'a jamais vraiment obtenu.
Et il le disait à Renaud ?
Il lui a dit, je crois, oui, un jour. Oui, oui.
Et Renaud,
on a une sorte de culpabilité quand même profonde, je crois, vis-à-vis de son père, qu'il n'a jamais exprimé, parce qu'encore une fois, il est taiseux, Renaud, très pudique.
Voilà, la Putain d'Expo fera plaisir à tous les groupies du chanteur qui verront la première moto de Renaud, sa première guitare, son premier accordéon, son blouson en cuir clouté Lolita, tout comme les maquettes des décors magnifiques de ces spectacles imaginés par Gérard Le Monaco. Il y a même le décor grandeur nature de la pochette du disque La Belle de Mai.
Pour la promotion de ce disque, Gerardo Monaco souhaitait photographier Renaud qui ne voulait pas. Donc, et il lui a dit, est-ce que si je te fais une cabane foraine, est-ce que tu t'accepteras de te faire photographier à l'intérieur? Il a dit oui. Donc il lui a fait construire une cabane foraine qui est reproduite ici à l'expo. Ensuite, Renaud l'a choisi comme scénographe pour ses décors de scène. Et c'est au grand dame de ses producteurs qui pleurait. Il disait, mais Renaud, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Il va falloir trop de semi-remorques pour transporter tous ces décors. Mais Renaud n'a jamais cédé. Et il a toujours fait des décors absolument incroyables pour ses tournées. Un vrai théâtre avec des décors, des maisons, des toits de Paris, un bistrot sur la scène. Il a même fabriqué un arbre dans lequel les musiciens étaient perchés, avec la vraie pelouse sur scène qu'on déroulait tous les soirs et qu'on enroulait à nouveau après le spectacle pour mettre dans les semi-remorques. Enfin, c'était somptueux.
Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais qu'est-ce qu'il foutait là ?
Est-ce que l'on voit dans la putain d'expo les dessins de Renaud dans Charlie Hebdo ?
Bien sûr, on voit aussi comment les auteurs de bande dessinée ont illustré ses chansons, mais aussi on redécouvre Renaud, acteur, puisque c'est ainsi qu'il a commencé sa carrière en 68, comédien au Café de la Gare à Paris. Son plus grand rôle, c'est Claude Berry qui le lui offre en 1993, Germinal. Claude Berry lui avait proposé le rôle d'Étienne Lantier, parce que son grand-père maternel à Renaud était mineur à l'âge de 13 ans. Eh bien, il s'en est mordu les doigts, m'a dit David Séchant.
Quand Claude Berry lui a proposé le rôle, il a beaucoup hésité. Il était assez timide, Renaud, et il ne se sentait pas à la hauteur du personnage. Longtemps, il a refusé jusqu'au jour où Berry lui a dit « Écoute, c'est très simple, Renaud, si tu refuses, je donne le rôle à Patrick Bruel. » Et Renaud a dit « Ah bon ? Non, je le fais. » Parce qu'il a toujours eu une concurrence avec ses confrères qui vendaient plus de disques, qui faisaient plus de salles. Et donc, du coup, ça l'a décidé à faire. Et pendant le tournage, il a monté la grève des figurants qui était extrêmement mal payé par Claude Berry. Et il passait, lui, sa vie avec eux dans la cantine, au lieu d'être en backstage ou dans le catering des artistes et de la production. Lui, il était avec les figurants, où il a appris le répertoire des chansons ch'ti. Il en a fait un disque qui a été un grand succès aussi. Et il a obtenu la revalorisation des cachets des figurants. Et Claude Berry était fou de rage.
Et je passe mes vacances tout en haut, le ch'téri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte comme toi le tente, je vis tout seul et je
voilà,
m'arrange.
C'était aussi Renaud l'activiste que vous découvrirez à la Cité de la Musique. Putain d'Expo ouvre ses portes ce vendredi jusqu'au 2 mai et Renaud est attendu dans les semaines à venir.
Merci beaucoup Manic Younes.
Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire Chambéry. Je ne suis qu'au fait tout un haut de ch'téri.
On va dire que cette chanson donne le sourire. Dans un instant, la rentrée littéraire se poursuit. Nous retrouvons Bernard Lehu.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
9h10. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ce proverbe algérien illustre bien le propos du livre que publie Olivia El-Kaïm aux éditions Stock, Le tailleur de Relizane. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Et vous avez été particulièrement touché par ce roman autobiographique en lice pour le Fémina. C'est l'un des grands prix littéraires de l'automne.
Oui, Olivia El-Kaïm est fille et petite fille de pieds noirs, des origines qu'elle a longtemps ignorées, refoulées jusqu'à un divorce douloureux où, pour se reconstruire, eh bien, elle a ressenti le besoin de comprendre d'où elle venait. Elle s'est alors, Olivia El-Kaïm, tournée vers son père.
Puisque j'ai la chance que mon père soit encore vivant, je l'ai appelé et je lui ai dit « Papa, j'aimerais que tu me parles de l'Algérie ». Et comme c'est quelqu'un de très sentimental, très oriental et qui aime parler de l'Algérie, quand on lui pose des questions, il est arrivé chez moi le lendemain ou le surlendemain avec une valise à roulettes pleine d'archives familiales et on s'est mis à se parler de cette histoire-là.
Et Olivia El-Kaïm découvre notamment l'histoire de son grand-père Marcel, tailleur à Relizane, une ville à l'est d'Oran. Une nuit d'octobre 1958, il est enlevé par un commando du FLN. Il pense mourir. Or, il sera rendu au sien 3 jours plus tard. Que s'est-il passé ? Marcel n'en dira jamais rien et nous voilà happés par ce début hautement romanesque et par le destin hors norme du petit tailleur de Relizane, né sur cette terre d'Algérie, comme ses ancêtres depuis des siècles.
En fait, ils étaient à Relizane depuis 450 ans. C'était des berbères judaïsés. Mon grand-père Marcel grandit à Relizane au milieu de la communauté arabe musulmane. Et tous ses copains étaient musulmans. Il allait prier avec eux, il allait jouer au foot avec eux. Mon grand-père abhorrait littéralement les colons qui exploitaient ses amis arabes. Et en fait, ils ont été pris dans des événements trop grands pour eux. Ils ont été écrasés par la grande histoire et cette guerre a tout empoisonné.
Et puis vient l'exil pour Marcel et sa famille.
Et oui, un arrachement dont Olivia El-Kaïm restitue l'intensité avec une poignante sobriété.
Je voulais témoigner de ce que c'est que quitter une maison. Ça vaut pour tous les exilés du monde. Quitter l'appartement de Relizane pour mes grands-parents, quitter la boutique de la rue du Fortin à Relizane, ça a été une déchirure affreuse. Mon père me dit toujours qu'il a dû laisser tous ses jouets. Et d'ailleurs, il cultive une nostalgie énorme pour un tir au pigeon qu'il a laissé là-bas et qu'il recherche activement dans toutes les boutiques de jouets de France pour l'offrir à mes enfants. L'exil, c'est ça, le départ, c'est ça. Ce sont des petites choses du quotidien auxquelles on est attaché et qu'on doit laisser derrière nous.
Et à la douleur de l'exil s'ajoute celle de l'accueil hostile réservé aux pieds noirs. Marcel et sa famille, bien que de nationalité française, vivent comme les migrants d'aujourd'hui. Et là, en métropole, une cave parmi les rats près d'Angers sera leur premier logement. Leurs biens ont été jetés à la mer et Marcel retrouvera sa petite voiture, une Dauphine entièrement décarcassée.
Il espérait retrouver tout ça intact sur le port de Sète et puis finalement, il se retrouve insulté par les dockers de la CGT qui lui disent « Sale colon, tu t'es enrichi sur le dos des pauvres Arabes et tu as fait suer le burnous ». Là, je pense que c'est il racle le fond, là, parce qu'il a juste envie de dire « Mais je suis pas comme ça, c'est pas cette histoire-là, ça me concerne pas ». Et il rentre près d'Angers. Et
dans la cave.
Voilà, il retourne dans la cave et il doit annoncer à Viviane, ma grand-mère, que tout a été perdu. Et ça, pour lui, c'est déchirant.
Marcel ne retournera jamais en Algérie, Bernard.
Oui, un voyage que fera son fils, par contre. Pierre, le père d'Olivia. Des pages bouleversantes.
J'ai du mal à parler de cette partie-là de mon roman, parce que c'est vrai que c'est une partie qui m'émeut beaucoup. Puisque en 2009, mon grand-père est encore en vie et Pierre l'appelle et lui dit « Écoute les bruits de Relizane ». Et il lui dit au téléphone « Voilà, j'y suis ».
Marcel y est aussi.
D'une certaine manière, Marcel y est aussi. Ce qui est déchirant, c'est que mon père, il va rapporter des films et ma grand-mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer va lui sourire un peu bêtement et lui dire « C'est beau ce pays, mon fils, mais c'est où ?»
Ce pays, l'Algérie, Olivia El-Kaïm l'a fait sien par la magie d'un livre. Un livre, évidemment, dont son père a été le premier lecteur.
C'était très beau, parce que je crois qu'il a été très ému, il a beaucoup pleuré. Il m'a appelé en me disant que je lui avais permis de revivre une partie de son enfance. J'avais fait revivre mes grands-parents, j'avais fait réémerger un monde disparu, le monde de l'Algérie des années 50. Et puis de cette ville, Relizane.
Désormais, Olivia El-Kaïm sait où elle va, puisqu'elle sait d'où elle vient. Le tailleur de Relizane est publié chez Stock, et on lit donc pour le prix Femina, mais ne le manquez surtout pas.
Merci beaucoup Bernard, en tout cas vous nous avez donné grande envie de le découvrir. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
On signale sur Arte ce soir l'histoire du Ku Klux Klan, et sur M6 la comédie Épouse-moi mon pote. C'est deux univers assez différents.
Tout à fait, alors d'abord petit A, le doc sur le Ku Klux Klan, oui. Il est édifiant, qui liste exhaustivement au scalpel tous les assassinats de cette société secrète, raciste, illégale, criminelle, créée en 1865 dans le sud des États-Unis. Dommage qu'il y ait un rajout choquant de bruitages, aboiements de chiens, ricanements sur scène de lynchage. Les images se suffisent largement à elles-mêmes. Et alors, petit B, changement de genre, Épouse-moi mon pote, oui, la première comédie de Tarek Boudali, dont le deuxième film, 30 jours max, sort demain. J'adore Tarek Boudali, révélé au grand public dans En famille sur M6. Et là, c'est l'histoire d'un mariage blanc. Troisième temps fort, le retour, évidemment, de Marlowe sur la 3. Laurent Gérard en a parlé. 7 millions de fanas pour le dernier inédit en février 2020. 8 millions avec le replay. Ce soir, Marlowe, notre gendarme aux oreilles de dingo, pas que les oreilles, enquête sur le meurtre d'une jeune patineuse promue meneuse de revue après la blessure de la championne, Sylvie Testu. Par ailleurs, épouse du patron de la troupe, joué par Christophe Lambert. C'est donc la suspecte idéale, Sylvie Testu, vite soumise à la question.
Qui, que, quoi, dont, où ?
Eh ben alors, on s'est rencontrés par hasard au marché.
Avec qui ?
Peter.
Peter. Le vrai ou le folk ?
C'est un Australien. Je l'ai vu de loin dans la rue. Moi, il me regardait comme si j'étais seule.
C'est Nathalie Péchala, alors en pleine affaire Sarah Abitbol, qui a réglé toutes les chorégraphies. Et Sylvie Testu patine vraiment et très bien. Autour d'elle et de Christophe Lambert, on trouve, un certain Stevie Boulet. Quelle surprise, ai-je dit à la réalisatrice José Dayan, qu'on retrouve donc chaque année.
Rendez-vous de la rentrée, oui. Alors, c'est étrange parce que Stevie, je l'avais rencontré il y a des années au Grosse Tête avec Jeanne Moreau. On l'avait trouvé très charmant, vif, sympathique, intelligent. Et je prépare ce film-là et je ne sais pas pourquoi. Je mets un texto à mon casting, je lui dis « Demandez à Stevie s'il veut être dans le film ». Et il a répondu tout de suite, il était très content. Et je trouve qu'il est très bien dans le film, voilà.
Eh bien, se retrouver dans la série la plus suivie pour un coup d'essai. C'est un coup de merde, Stevie, elle n'est pas belle la vie?
Elle est incroyable. C'était arrivé en plus un 23 décembre. Je reçois l'appel d'un directeur de casting. José Dayan vous veut dans Capitaine Marlowe. José Dayan est quand même très très impressionnante. C'est un monument. Moi j'étais un petit garçon, tétanisé. Ça a été une aventure incroyable. Tous ont été adorables avec moi. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est que je m'attendais à certaines scènes à les faire 4, 5, 6 fois. Ah bah non, première scène, j'y vais avec Corinne. Il faisait froid, il était 7h. C'était un matin, on était en pleine montagne dans les Vosges, à Gérardmer. Et là, action, donc on y va. Et coupé, c'était très bien mon petit Stevie. Après, je vais être honnête, j'ai peur de me voir à l'antenne. Déjà, j'évite de me regarder parce que je ne me supporte pas. Donc là, vous imaginez, j'ai une boule au ventre, je ne me sens pas bien, mais bon, j'ai quand même le regardé. Mais j'emmène pas large, pour être honnête.
Mais si, tout va bien, il est très bien dedans, effectivement, comme lui a d'ailleurs dit Corinne Maziro. Corinne Maziro, on reviendra ultérieurement avec elle sur son rôle, mais là, il y avait plus urgent. Il y a même une urgence, répondre à la rumeur persistante, affirmant qu'elle supporte de plus en plus mal la notoriété. Alors, Corinne Maziro ?
Quand j'accepte, je joue le jeu. Ce qui me gêne, c'est quand ça empiète sur ma vie personnelle. Moi, quand je suis en festival, je m'amuse et je fais l'andouille et des selfies, tout va bien. Mais quand je suis à l'enterrement d'un copain ou que je suis au chiotte, j'aime pas qu'on vienne me faire chier, quoi, c'est tout. C'est pas une question de notoriété, c'est une question de bon sens et de politesse. Ouais. On n'interrompt pas des gens qui sont en train de bouffer sans s'occuper des gens qui sont autour de moi. Mais je réponds jamais mal. Je dis non, excusez-moi, c'est pas le moment. Et puis il y en a qui assistent. C'est juste ça qui m'emmerde. C'est pas parce que t'es fan que t'as le droit d'entrer dans ma maison. Parce qu'il y en a qui font ça aussi à Roubaix, il y en a qui essayent de rentrer chez moi. Ça se fait pas. Hier, j'étais encore à un spectacle voir un copain faire de la danse et il y a quelqu'un qui est en plein milieu du spectacle, commence à faire des photos avec le flash et avec le bruit de l'appareil. Ça va pas la tête, quoi. Et des fois, je leur dis, mais pourquoi vous voulez une photo? Si c'est pour en avoir 150 000 qu'on regarde jamais. Puis en plus, mettre à côté l'un de l'autre, je dis, non, il y a le Covid, on peut pas faire des selfies. Les mecs, ils enlèvent le masque. C'est du bon sens.
Voilà. Donc Corinne Maziro qu'on retrouvera. Puis alors c'est une omelette norvégienne cette saison, parce que ce soir on est à Gérardmer et dans 15 jours on sera à la Guadeloupe. C'est tourné avant le Covid, donc évidemment on en reparlera.
Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, le premier album jeunesse de Didier Decoin. Il s'est confié à Laurent Marcy.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
9h22, bonjour Laurent Marcic.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une ode à la différence maintenant. Le romancier, scénariste et président de l'Académie Goncourt Didier Decoin publie, ou devrais-je dire republie, son premier livre jeunesse baptisé au contraire L'histoire d'un cheval, pas comme les autres.
Au contraire est effectivement un petit poulain pas comme les autres. Né, nous raconte Didier Decoin, dans le Hara, ça ne s'invente pas, de la famille O'Hara.
Vraiment, ce n'est pas une nuit comme les autres. Regarde bien. À l'instant précis où la lune surgit entre deux nuages et vient éclabousser de bleu les collines d'Irlande, la jument au galop, orgueil de l'élevage O'Hara, met au monde un fils si beau que même les hiboux s'approchent pour voir ça de plus près.
Ici, on donne naissance à des futurs cracks. Nous sommes en Irlande, mais le poulain, au contraire, est différent des autres. Il galope à l'envers. C'est là-bas, en Irlande, que l'idée de ce livre jeunesse est née dans la tête de Didier Decoin. C'était au début des années 70. Didier Decoin.
J'étais allé me promener en Irlande avec ma fiancée, et qui est devenue ma femme, et j'étais tombé évidemment éperdument amoureux de ces collines vertes, de ce climat mouillé, et je me demandais si je pourrais écrire un roman qui se passe là-bas. Mais c'était l'époque où il y avait encore Michel Déon, qui avait fait le Taxi Mauve, les poneys sauvages, etc. La concurrence était trop, trop forte. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Un film trop compliqué. Et j'ai eu l'idée de faire un album qui se passerait en Irlande.
Au contraire, a été publié une première fois en 1976, mais épuisé depuis. Il a donc été revisité par les talentueux crayons et pinceaux d'Alexandra Huard, qui a donné du mouvement et beaucoup de douceur à ce petit cheval. L'idée de ce cheval qui galope à l'envers, elle est venue à Didier Decoin par les représentations traditionnelles dans les films et dessins animés. Vous savez, on voit toujours les chevaux avec les cow-boys qui galopent tout droit, ils foncent comme ça. Et lui, il s'est dit, bah tiens, cette différence de contraire qui aurait dû le conduire à la boucherie pourrait devenir sa force. Didier Decoin.
Moi, j'ai toujours eu des héros de romans ou de films qui étaient différents et qui, parce qu'ils étaient différents, l'emportaient sur ceux qui étaient standardisés, formatés, etc. Et ça me plaisait beaucoup l'idée de ce petit cheval qui était tellement handicapé par cette façon qu'il avait de galoper à l'envers qu'il était promis à la boucherie, c'est-à-dire au châtiment suprême, la peine de mort. Il allait avoir l'opportunité de montrer que cette différence qui l'humiliait par rapport aux autres et qui lui risquait de lui coûter la vie, eh bien cette différence allait en fait sauver le haras, sauver ses compagnons d'écurie et montrer que ben c'est pas parce qu'on fait les choses à l'envers qu'on les fait plus mal que les autres.
Alors la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui a poussé un auteur comme Didier Decoin, plus habitué au rayon bien entendu littérature adulte, à écrire pour la jeunesse?
Il l'était déjà à l'époque au rayon littérature adulte. Eh bien j'ai justement posé la question et la réponse sonne pour lui comme une évidence. C'est comme le goût de la guimauve de sa propre enfance, explique-t-il.
Il n'y a pas d'hiérarchie dans la création. On a autant de... Je ne parle pas pour moi là, hein, mais on a autant de mérite à écrire un livre pour enfants. Quand on pense à l'émotion qu'on leur procure, moi je les oublierai jamais. Je me rappelle, je lisais un livre qui c'était Les aventures d'une petite oursonne qui était représentante en chocolat. Les dessins n'étaient pas beaux, l'histoire était cucu la praline, mais j'ai adoré Les aventures de Nounouche. Ça fait partie de mon enfance au même titre que Les câlins dans les bras de maman ou c'est La petite Madeleine de Proust multipliée par 100 000 lectures.
Auguste Durst, c'était l'auteur de Nounouche. Il avait aussi fait Dédé le Pélican pour l'anecdote. Au contraire, publié aux éditions Robert Laffont, à lire dès 6 ans. C'est une belle histoire du soir.
Non. Merci infiniment. Tout cela nous a fait une très jolie parenthèse. Dans un instant, nous allons retrouver Julien Courbet. Il est 9h26.
La rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte. J'adore faire peur. Elle te montre du doigt la rumeur.
La rumeur, c'est le nouveau titre de Calogero et demain nous vous proposons une visite privée dans son studio personnel un mois avant la sortie de son futur album. Visite privée et guidée évidemment avec Steven Bellery. Ce sera demain avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter, le tout dernier Calogero. Ça nous mène à 9h29 et 45 secondes quand même. Donc on va tout de suite retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien.
Écoutez, je vous trouve, mais alors c'est très étonnant parce que je sais que vous n'êtes pas très en forme aujourd'hui. On ne va pas se mentir, hein. J'ai pu parler avec votre généraliste, mais arriver à faire 2 heures de direct alors que vous souffrez de...
Ah bah il y a des vertiges, somnolence, irritabilité, tremblement, nausées, douleurs abdominales, céphalées.
Il faut le faire quand même.
C'est pas mal.
Vous tenez bien la route.
Bah, le bon docteur Simès s'occupe de moi. Hein.
Ah bah, je sais bien. Hervé Pouchol est en duplex à Marseille, mon cher Yves, car une dame attend depuis 2 ans de pouvoir entrer dans sa maison. Des squatteurs, entre guillemets, professionnels se sont installés là-bas. Et ça devait bouger ce matin. Alors on va voir ce qui s'est passé. Mais juste Hervé, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends, mon cher Julien.
Bon, alors ce que vous voyez là-bas est assez dramatique. Ils ont laissé la maison dans un état catastrophique.
Ah, c'est une catastrophe et Monique est très, très peinée. Elle est accompagnée de son frère, Michel. Ils sont avec nous et je viens visiter la maison avec Monique. Et moi aussi, je suis très touché. Vous verrez les images dans quelques instants sur la page Facebook de l'émission.
Merci Hervé. Bon, ben voilà, vous voyez.
Bon, ben, gros boulot pour vous occuper de Monique. Et puis après, il faudra remonter le moral d'Hervé aussi.
Bien sûr, il a une petite voix.
Hein, il est très atteint. Je l'ai vu tout de suite.
Merci beaucoup.
Bonne émission.
Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Dénouement pour Monique et nous allons en savoir plus dans quelques instants. Un autre cas aussi un petit peu plus tard avec une maman de 3 enfants, Stéphanie. Et pour régler tous ces problèmes, que la force soit avec nous. Pénaliste elle est, pénaliste elle restera. Sylvie Novakovic est avec nous, bonjour.
Bonjour à tous.
Il y a le druide, le spécialiste PV Radar, maître de Caumont.
Bonjour à toutes et à tous.
Karine Saint, question de voiture. Bernard Sabat, vous négociez.
Bonjour à tous.
Céline Gibet, Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Alain Hazard, rédacteur en chef. Xavier Kassovitch, réalisateur. C'est parti mon kiki. Je relance cette expression moderne dorénavant sur le milieu de la FM. Alors, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment en direct, bien évidemment.
Qui peut nous aider ? C'est Julien Courbet. Qui faut-il appeler ? Julien Courbet.
Il vous suffit pour cela de faire le 30 de 10.
50 centimes d'euros la minute.
Ou bien le Facebook, la page, ça peut vous arriver.
9h30, 11h30.
À n'importe quel moment, vous le savez, vous pouvez gagner 1000 euros. Alors écoutez bien, dès que vous entendrez... Vous nous appellerez bien sûr au 3210. Alors Hervé Pouchol, vous êtes en ligne. Nous allons résumer, maître Novakovic, ce qui arrive à Monique. Monique est propriétaire en indivision avec son frère et sa sœur d'une maison à Marseille héritée de ses parents. Un jour, elle découvre que la maison est squattée. Alors on parle entre guillemets de squatteurs professionnels pour une raison simple, c'est que ces gens-là sont arrivés avec des camions. Après, il y a continué à avoir un trafic de camions. Elle a tout fait pour essayer de faire sortir ces gens-là. Et d'ailleurs, elle a fait ce qu'il fallait. Il faut faire un petit rappel à la loi, maître Novakovic. C'est dans les 48 heures que tout se joue, ce qu'elle a fait. Rappelez-nous
exactement,
ça.
Exactement, elle a réagi dans les 48 heures, elle a saisi le commissariat, elle a déposé une plainte. Et dans cette hypothèse, il n'y a pas de délai donné au squatteur. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour prendre sa plainte.
Charlotte, ce qui est à la fois drôle et pas drôle, c'est que quand elle se rend dans les 48 heures au commissariat, qu'est-ce qu'on lui répond ?
On lui répond que toutes les équipes de police sont mobilisées pour le match OM-PSG, pour la sécurité du match le soir même. Donc personne ne pourra prendre sa plainte, mais on l'invite à revenir trois jours plus tard.
Alors les 48 heures sont passées. Heureusement, elle a fait une main courante, ce qui prouve qu'elle est bienvenue au commissariat. Et là, pendant deux ans, il ne va rien se passer. L'huissier de Monique a constaté, somme la préfecture, de faire une intervention. Et pendant deux ans, il ne va rien avoir. Nous sommes emparés du dossier, nous avons essayé d'appeler un petit peu tout le monde. Et on nous a annoncé une date d'expulsion qui devait avoir lieu ce matin à 8h30. Hervé Pouchol, vous prenez le relais, vous êtes sur...